Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La politique gouvernementale en matière de développement durable ne laisse plus l'opinion internationale indifférente. En effet, la société civile et les citoyens du monde se sentent davantage concernés par les politiques environnementales et leurs effets concluants ou décevants. D'autant plus que lorsqu'on constate une inadaptation des mesures entreprises par les élites politiques qui ne remédient pas à la vulnérabilité climatique de leur pays. Pour le cas du Maroc, alors que le Royaume s'insère dans une initiative de développement durable multisectorielle, le World Resources Institute prédit un stress hydrique extrême pour le pays d'ici 2040. Il faut aussi savoir que 96% des Marocains sont familiers d'une manière ou d'une autre avec le terme durabilité, où ils l'associent principalement à la conservation des ressources naturelles et des ressources d'énergie renouvelable. En ce qui concerne les actions entreprises liées au mode de vie plus durable, bien évidemment, 95% de la population a également pris des mesures selon ses réalités. En termes de responsabilité d'entreprise, 7 sur 10 estiment que les entreprises marocaines manquent à l'appel en termes de soutien à la durabilité et aux bonnes pratiques éthiques, mais tendent quand même à considérer les entreprises technologiques ou autres comme les plus actives en matière de développement durable. De plus, lorsqu'on examine les responsabilités financières globales des pratiques durables, 3 répondants sur 5 croient que la responsabilité budgétaire devrait incomber au gouvernement. Par ailleurs, 1 sur 6 est ouvert à supporter personnellement les coûts eux-mêmes en montrant leur soutien et leur contribution à la durabilité. Ainsi, il paraît clair que pour mieux appréhender au-delà de sa définition, que nous avons d'ailleurs introduit dans notre première émission, il nous faut comprendre cette notion de durabilité. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur la durabilité. Aujourd'hui, comme un enfant qui apprend à marcher dans le monde du développement durable, nous allons suivre les pas de Abdelghani Youmni, économiste, spécialiste des politiques publiques, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, rapporteur de la Commission du commerce extérieur et du développement durable, pour nous éclairer sur la notion pratique et économique de la durabilité. Bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Ababacar Tonkara, bonjour aux personnes qui vous suivent pour ces podcasts. Je vous remercie pour l'invitation et puis vous avez fait une très belle introduction donc à cette question qui devient épineuse et qui concerne l'humanité entière pour la préservation de la planète.
Et bien évidemment, donc pour faire ce premier pas, alors comment l'économiste que vous êtes pourrait-il expliquer aux citoyens ordinaires que nous sommes la notion de durabilité ?
Bah écoutez, d'abord, on va commencer par définir la notion d'abord de ce que c'est que le développement durable. C'est une notion qui, à sa naissance, a été politique. Après, en 1987, la Commission mondiale de l'environnement et du développement public, avec un rapport qui est Our Future, et qui a coïncidé avec une donnée statistique qui nous disait qu'en 1950, le monde comptait 2,6 milliards d'humains et qu'en 1987, on a doublé la mise et on est arrivé à 5,2 milliards de personnes. Et ça a été un signal d'alarme. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. Donc, il y a aussi une question démographique dans la durabilité ou dans le développement durable. Alors, après ce rapport de la présidente Brundtland, elle a défini le développement durable comme un développement qui répond d'abord aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les capacités des générations futures afin de répondre aussi à leurs besoins. C'est aussi un principe de justice, de solidarité intergénérationnelle, mais surtout entre populations et territoires, parce que souvent dans la question du développement durable, on oublie les territoires parce qu'il y a souvent des discriminations d'abord entre les populations, mais aussi entre les territoires. Et puis, il est vrai aujourd'hui que la durabilité est plus penchée vers le côté faible durabilité plutôt que vers le côté forte durabilité. Mais ça aussi, c'est une question. Donc, il faut repenser, si vous voulez, en plus des notions de partage de revenus, c'est aussi les notions de production et de consommation et de préservation des richesses qui ne sont pas infinies. Et là, je vais reprendre, si vous voulez, deux économistes,
oui.
Jean-Baptiste Say, qui pensait que les richesses étaient illimitées, face à un autre économiste qui était plus pessimiste, Malthus, qui disait qu'il faut corréler entre la richesse produite et la démographie. Et je pense, moi, je reste que la question du développement durable est aussi une question démographique.
Justement, on entend souvent, et vous venez même de le dire, on entend souvent parler de durabilité forte et de durabilité faible. Mais quelle est la différence ?
Ben, écoutez, c'est aussi une notion qui est née dans les années 1980, parce qu'on commençait à voir d'abord des crises économiques, des crises financières, mais aussi des crises environnementales, et la question a commencé à se poser. Et si vous voulez, c'est une économiste qui s'appelle Sylvie Brunel qui, la première fois, a donné une définition de ce que c'est que la durabilité forte et faible. Ça a été en 2012. Et par ces mots, tout simplement, elle définit, si vous voulez, la durabilité forte comme le maintien du capital naturel, la durabilité faible comme la mise en commun du capital naturel et du capital transformé. Si vous voulez, il y a une notion macroéconomique et une notion microéconomique. Alors la notion macroéconomique, si vous voulez, c'est la préservation du capital naturel sans le toucher. Et la microéconomique, c'est de substituer le capital naturel et transformé pour qu'il y ait une addition. Et en fait, il y a des gens, si vous voulez, qui défendent la poursuite de la croissance économique et de la consommation forte. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent qu'il faut stopper tout ça. Si vous voulez, il y a des défenseurs d'une croissance zéro et puis d'une croissance illimitée. Et normalement, la réponse se trouve entre les deux. Si vous voulez, encore, c'est aussi une distinction entre la thésaurisation du capital naturel, c'est-à-dire avec une croissance nulle, et défendue par des écologistes, mais aussi par d'autres, et puis substituer capital naturel et capital produit. Et là, ce sont les économistes de la croissance, et je ne vais pas les reciter. Alors, par exemple, l'économiste Robert Solow, Paul Romer, Keynes aussi, Champetier ou Philippe Aguillon, un des plus contemporains aujourd'hui, qui défendent une croissance économique parce que aussi il y a certains économistes qui vous disent qu'il faut, si vous voulez, une solution médiane entre la faible durabilité et la forte durabilité, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire de la croissance économique parce qu'il faut partager le revenu, il faut de la fiscalité pour les États, c'est complexe si vous voulez. On ne peut pas stopper aujourd'hui, mais, parce qu'il y a un mais, si vous voulez, on a vécu une parenthèse de durabilité forte pendant la période de confinement. Et ça m'avait vraiment éclairé sur cette question, parce que j'ai dit pendant 3 mois ou 3 mois et demi, on a enfermé l'humanité et nous avons régénéré une partie de nos écosystèmes, si vous voulez, de la biodiversité, mais aussi l'eau et la verdure et plusieurs choses.
Et aujourd'hui, M. Humni, quels sont donc les piliers fondamentaux de la durabilité ?
Ben écoutez, les piliers fondamentaux, ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science exacte, la durabilité. Mais les gens qui s'intéressent à cette question, ils définissent les piliers de la durabilité au nombre de 4. Donc, vous avez un pilier social, un pilier humain, un pilier économique et un pilier environnemental. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que la plupart des conseils économiques et sociaux du monde ont changé leur appellation pour devenir conseil économique, social et environnemental, dans le monde entier. Alors, si vous voulez, le terme durabilité est souvent utilisé pour dessiner des programmes, des actions, des fonds, mais soutenus par des institutions, mais on ne va pas chercher les piliers, mais il y a des personnes qui sont allées pour définir ces piliers. D'abord, la durabilité humaine, c'est quoi ? La durabilité humaine, c'est améliorer le capital humain, investir dans les études, la santé, les services de nutrition, la citoyenneté universelle avec un niveau d'humanité augmenté. Et vous voyez qu'on est loin du compte aujourd'hui entre le continent asiatique, le continent africain et les pays riches. Donc, il y a quand même des écarts qui sont colossaux à ce niveau-là. Et donc, si on veut faire une durabilité humaine, il faut qu'elle soit généralisée. Il ne faut pas qu'elle soit discriminatoire. Et donc, il faut travailler ce qu'on appelle les « human skills », c'est-à-dire à la fois les « soft skills », les « soft skills », mais aussi les « hard skills », et aussi définir le citoyen dans une société de biens communs. Et ça, ça se fait à l'école. Et donc, la durabilité humaine, c'est aussi une question d'abord d'éducation. Après, si vous voulez, vous avez donc la durabilité économique. La durabilité économique, c'est tout simplement le maintien du capital intact, améliorer le niveau de vie, du bien-être, l'efficience, l'efficacité et aussi l'effectivité. Et ça, c'est une approche microéconomique de la production et de la consommation. En fait, on revient, si vous voulez, à des théories d'optimisation. C'est-à-dire, il faudrait utiliser le capital naturel avec un niveau d'optimisation extrême pour ne pas être dans la surconsommation. Et donc là, vous trouvez beaucoup de théories, surtout microéconomiques, comme la théorie de Coase sur les externalités ou aussi le coût d'opportunité, les arbitrages. Et là, normalement, c'est aussi une responsabilité du gouvernement, mais aussi une responsabilité sur toutes les politiques de concurrence qui existent entre les grandes entreprises mondiales pour ne pas faire la course vers le profit. Donc, il faut peut-être, dans cette durabilité économique, définir une nouvelle économie qui inclut à la fois le capital naturel comme intrant. Et aussi, donc, il faudrait inclure son coût, le capital naturel, pour avoir des prix bien étudiés et pour qu'une partie des profits soit reversée à la préservation de la biodiversité et aussi des écosystèmes naturels. Puis, vous avez la durabilité environnementale, et je pense à
allez-y.
Tout le monde s'accorde à ce que c'est améliorer le bien-être grâce à la production, la biodiversité du capital naturel et garantir les besoins de la population actuelle sans compromettre les besoins des générations futures. Ça, c'est très, très clair. Finalement, la durabilité sociale, et ça, c'est une vraie question, ça touche aux inégalités d'abord genre, aux inégalités entre les territoires, aux inégalités entre les couches sociales et les classes sociales dans chaque pays. Il faut préserver le capital social et surtout le capital immatériel. Et là, je vais rappeler beaucoup de discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, où il est intervenu sur la notion de capital immatériel, c'est-à-dire que la mondialisation ne doit pas détruire les spécificités culturelles, linguistiques, mais aussi les valeurs des nations. Donc, il faut que l'héritage intergénérationnel s'intéresse aussi à cette question de durabilité sociale et aussi aux spécificités des nations et des citoyens du monde.
Également, donc, vous l'avez dit, et beaucoup de nos auditeurs ont entendu dans votre discours et dans le mien également, la notion de durabilité. Durabilité, vous l'avez définie, mais aujourd'hui, pourquoi la durabilité est-elle importante? Là également est la question.
Alors, pourquoi la durabilité, elle est importante? Parce que, si vous voulez, nous vivons une urgence, d'abord, parce que notre population mondiale risque l'extinction, et c'est pas un vain mot, hein, je dis pas ça comme ça, parce que l'espèce humaine a organisé sa destruction. Parce que si vous lisez tous les rapports du GIEC, et beaucoup de gens n'aiment pas les lire parce qu'il y a beaucoup de vérité dedans, c'est qu'il faut reconstruire un modèle de résilience de nos sociétés humaines, et pas seulement de chaque société, parce que ça c'est une erreur, parce que beaucoup de gens pensent que la notion de durabilité, développement durable, ça ne concerne que les riches, non. Les victimes de la pollution et de ces transformations climatiques, ce sont les pays pauvres et aussi les pauvres dans chaque pays, mais c'est une question qui concerne tout le monde. Alors, si vous voulez, parce que nous sommes face à beaucoup de méga menaces qui sont nées des inégalités, et qui sont nées aussi de la cupidité d'un modèle néolibéral qui ne cherche que le profit au détriment d'une richesse qui est normalement finie et aussi au détriment de beaucoup de ressources naturelles qui ne sont pas illimitées. Donc oui, la durabilité aujourd'hui est très importante. C'est une urgence surtout si on veut que notre espèce humaine continue au-delà de... Parce qu'on a détruit en un siècle ce qu'on avait préservé pendant des millions d'années à cause aussi de la révolution industrielle et aussi des modèles de profit que nous avons construits. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui sont un danger. Il y a aussi la hausse des températures. Il y a les phénomènes migratoires que nous connaissons partout dans le monde et qui vont concerner pas seulement le Sud, mais tous les pays du monde. Il y a aussi le budget carbone pour limiter le réchauffement. Et puis la transition énergétique qu'il faut accélérer. Si vous voulez, oui, la durabilité aujourd'hui est très importante parce que c'est la seule qui a un vrai impact sur l'avenir de l'humanité.
Et pour le cas spécifique, M. Yumni du Maroc, quelle durabilité adopter pour le Royaume?
Écoutez, nous vivons dans un continent qui est de nature résiliente, Et en fait, la notion de résilience, elle est synonyme de, si vous voulez, de durabilité. C'est la même chose. Parce que beaucoup de gens disent que l'Afrique, le Maroc, c'est un pays, une région ou un continent résilient, parce que nous avons toujours vécu, si vous voulez, d'abord dans le stress hydrique, nous avons vécu aussi dans difficultés, et le Maroc, depuis déjà au moins 70 ans, a commencé à travailler sur la durabilité avec la politique des barrages, la première des choses, parce que c'est un pays qui manque d'eau. Deuxièmement, c'est aussi un pays qui manque de ressources naturelles. La révolution des phosphates ne s'est faite qu'il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un pays qui est naturellement durable. Donc, le Maroc, par exemple, a reçu un prêt du FMI l'année dernière de 1,3 milliard de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. C'est un financement pour soutenir d'abord la transition du Maroc vers une économie plus verte et pour renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles. Donc, le mot a été dit, et aussi au changement climatique. Oui, le Maroc est engagé depuis d'abord 20 ans de manière sincère sur la durabilité systémique, eau, biodiversité, pollution, transition énergétique, ville durable. Nous avons deux villes durables qui sont en train de sortir de terre, c'est la ville de Zenata et la ville de Bingrid. Et puis maintenant, la durabilité, elle doit concerner aussi l'emploi, la croissance économique et le rattrapage technologique. Et ça, c'est un dilemme pour le Maroc, si vous voulez. Le dilemme pour le Maroc, c'est comment rattraper technologiquement les pays très développés et comment aussi faire de la durabilité. C'est complexe. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les pays développés commencent à mettre l'empreinte carbone et la neutralité carbone et la taxe carbone comme un nouveau avantage concurrentiel. Et ça, c'est problématique pour le Maroc. Heureusement que le Maroc a lancé sa transition il y a une vingtaine d'années. Le Maroc fait des efforts pour d'abord se conformer aux réglementations européennes et mondiales de la durabilité. Mais je vais vous donner un exemple, M. Sonkara. Il y a l'OCP, par exemple. L'OCP a libéré 130 milliards de dirhams au titre de 2023-2027 pour la neutralité carbone. C'est énorme. Excellent. Mais l'OCP aussi accompagne 5 millions d'agriculteurs sur l'Afrique de l'Ouest, aussi pour la santé des sols, mais aussi l'amélioration de la productivité. Ça, c'est que l'OCP. Mais nous avons aussi beaucoup sur le textile au Maroc. Il y a une vraie révolution sur la durabilité pour les produits textiles durables. Le Maroc a exporté 3,8 milliards d'euros. Il a multiplié à peu près par 5 ce qu'il faisait il y a 10 ans. Donc oui, il y a un travail, mais en même temps, il y a une arme aujourd'hui de la part des pays industrialisés qui s'appelle la neutralité carbone, ou aussi sous la forme de taxe carbone, qui limite aussi et qui devient aussi un avantage concurrentiel et qui est né juste après le Covid. Et ça aussi, c'est un défi dans la durabilité et les politiques publiques de durabilité du Maroc.
Et notre défi à nous, mesdames et messieurs, c'est de vous permettre également de comprendre à travers cette émission le concept de durabilité, mais également de développement durable. Abdelghany Youmni, merci.
Merci pour l'invitation.
Je rappelle que donc vous êtes économiste spécialiste des politiques publiques, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et rapporteur de la Commission du commerce extérieur et du développement durable. Merci encore à vous. Et mesdames et messieurs, toujours, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine dans votre émission sur la durabilité.